Bonjour à chacun d'entre vous. Nous sommes en période de Noël. Je pense que ça ne vous a pas échappé. Noël, pour nous les chrétiens, c'est une commémoration importante, puisque c'est l'anniversaire de la venue de Jésus-Christ sous la forme d'un enfant né dans une étable. Le Messie de Dieu, Dieu fait homme. C'est en quelque sorte la première étape de la mise en place du plan de salut de Dieu pour racheter l'humanité. Rappelé en Jean 3,16, presque pas la peine de donner ce verset, de le lire, mais « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternel. » Amen. Noël, c'est l'arrivée de ce don. Ça, nous chrétiens, nous le savons. Mais ce que nous connaissons aussi, et à juste titre, c'est la fête de Noël, celle du sapin, du Père Noël, de la famille, des enfants, des cadeaux, les lumières, il y en a même ici, et toute cette féerie. Une fête que la plupart nous aimons aussi, et il n'y a pas de problème avec ça. Un temps qui nous fait vivre avec quelques jours de congé et le nouvel an jusqu'au passage d'une année à l'autre sur notre calendrier. Et dans ce grand méli-mélo de repas, de cadeaux, d'embrassades, bref, tout ce grand bazar souvent commercial, dans lequel nous sommes plongés, nous vivons de gré ou de force, avec plus ou moins de joie, cette époque particulière de l'année qui souvent nous laisse encore plus fatigués quand elle se termine. Dans notre société, qui se définit comme judéo-chrétienne, en tout cas qui se définissait comme judéo-chrétienne, et pour la grande majorité de nos contemporains, que reste-t-il vraiment le 2 janvier de cette période de fête, si ce n'est souvent quelques cernes, un ventre encore un peu lourd et des bonnes résolutions tout à fait personnelles pour la nouvelle année qui, pour la plupart du temps, resteront des vœux pieux. Mais que reste-t-il, en fait, du vrai message de Noël, de sa signification initiale et des enjeux qui se jouent à ce moment-là? Qu'y a-t-il juste après le petit Jésus dans la crèche? Ce message, cette signification, le salut, est-ce qu'ils sont aussi rangés comme la crèche dans un carton et remis au fond du placard jusqu'à l'année prochaine? Quelle est notre compréhension de ces événements et notre responsabilité à nous, chrétiens, face à l'incrédulité de notre société? Il me semble important de reprendre, juste avant de fêter ensemble cette naissance, quelques idées à ce sujet à l'aide de textes bibliques qui sont forts bien souvent. Peut-être je vais vous choquer ce matin. Alors un petit peu d'histoire. Il faut savoir qu'aucun texte chrétien, biblique, ne précise quel jour dans l'année est né Jésus-Christ. Noël ne fait pas partie des fêtes suivies par tous les premiers chrétiens. D'après les récits bibliques de Noël, les troupeaux sont dehors avec les bergers. On peut donc facilement penser ou voir déduire que la naissance de Jésus s'est certainement pas située en hiver. Mais peu importe, finalement. Ce n'est qu'au IVe siècle, 400 ans pratiquement après la venue du Christ, dans un calendrier manuscrit de l'Église qui s'appelle le chronographe de 354, que la date du 25 décembre a été choisie et à qui on a donné le nom de Noël. Principalement dans le but de la substituer aux fêtes païennes qui étaient à l'usage à l'époque, autour du solstice d'hiver, période charnière de l'année qui regroupait de nombreuses croyances païennes relatives à la fertilité, à la maternité, à la procréation, à l'astronomie, et toutes ces célébrations avaient lieu le 25 décembre. C'est un empereur romain qui a décidé que ça serait comme ça désormais. On peut donc comprendre à ce point-là que pour les hommes, tout se mélange un petit peu. Et pourquoi depuis cette date, sur notre terre ici, Noël n'est souvent pas d'abord l'anniversaire de la naissance de Jésus. Cela signifie que pour beaucoup de personnes qui ont une petite notion de religion, voire pas de notion de religion, même des personnes qui ont chez eux une crèche, Jésus n'est que le petit Jésus de la crèche. Il ne grandit jamais. Il ne grandit pas. D'année en année, il reste le même. Il reste dans la crèche. Il passe sa vie là et dans le carton au fond du placard. C'est tout. Notre société n'a pratiquement pas ou peu de vision d'un Jésus enfant, ado, adulte. Beaucoup de nos concitoyens, prônant la laïcité, portent pourtant un signe religieux distinctif, une croix par exemple. Ça ne me pose pas de problème. Mais ces gens-là la portent bien souvent uniquement par habitude, plus par tradition que par religion, ou même plus souvent par simple croyance, voire superstition. Mais bien souvent sans faire le lien avec le Christ, ou sans jamais chercher à savoir ou à comprendre ce que signifie vraiment cette croix. Alors nous devons nous rappeler, nous, que notre place de chrétien, de fils et de fille de Dieu, rachetée par ce petit Jésus devenu adulte et mort sur la croix, notre place, notre mission est d'être des témoins pour notre monde. Et que notre rôle est aussi d'affirmer le vrai message de Noël. Affirmer la venue de Jésus-Christ, le Sauveur du monde, et le message de réconciliation envoyé ce jour-là par Dieu aux hommes et aux femmes, il nous est dit dans certaines traductions, de bonne volonté. Alors, est-ce que nous sommes de bonne volonté? Environ 730 ans avant la naissance de Jésus-Christ, Michée l'annonçait déjà au peuple de l'époque en prophétisant. Elle disait ceci, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite ville, entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. » Et quelques décennies plus tard, curieusement, Ésaïe confirme à l'avance, prophétie, l'incrédulité des hommes quant à l'œuvre du Messie. C'est incroyable. 730 ans avant le Christ, Michée l'annonce. 700 ans avant le Christ, Ésaïe sait déjà et prophétise déjà que personne n'y croira. Incroyable. Qui, Ésaïe 53, qui a cru à ce qui était annoncé? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Ne pas croire. Ne pas croire malgré les signes, malgré les prophéties, malgré les textes. Ne pas croire un peu contre toute évidence. C'est une des particularités et des contradictions de notre société dans sa démarche de laïcité systématique. Les mages de l'époque étaient plus sensés. Ils ont vu et reconnu dans l'étoile le signe que Dieu leur adressait. Un signe extraordinaire dans le ciel. Mardi passé, 12 décembre, après la cellule de prière chez nous, avec Rémi, nous avons vu un signe dans le ciel. Extraordinaire. On était devant la porte, nuit noire, et tout d'un coup, traversant tout le ciel, à cette vitesse-là, une énorme météorite, large, qui se désagrégeait au fur et à mesure. Et ça a duré 5-6 secondes, hein, en tout cas. Donc c'est long, énorme. On est restés baba les deux. Ce signe incroyable, c'est pas possible, ça n'existe qu'en été, les étoiles filantes. Et puis après recherche, non. Voilà, je peux vous dire, ça s'appelle les Géminides. Et entre eux, vous pouvez rechercher s'il fait clair, parce que tous les soirs après, Rémi et moi, on est sortis dehors, on dit zut, il y a des nuages. Entre le 12 et le 17 décembre, il y a une pluie d'étoiles filantes au rythme de une par minute, à peu près. On ne savait pas, on a découvert. Mais un signe dans le ciel. Moi, j'ai pensé à l'étoile. À l'étoile qu'ont vu les bergers. Et quelques semaines avant, en peignant le décor de Noël, là, par terre dans cette salle, j'étais sur la toile et je me disais, quelle grosseur je la fais. Comme ça, comme ça, comme ça, pour qu'elle représente cette étoile. Un signe dans le ciel. Un signe envoyé par Dieu. L'étoile annonçant la naissance de Jésus et guidant les mages. Ce soir-là, il y a 2000 et quelques années, combien ont pu voir cette étoile? Probablement. Et combien cherchaient à savoir qu'est-ce qu'elle voulait dire? Pourquoi elle était là? Alors, il n'y avait pas Internet à l'époque. Peut-être moins facile. Mais notre témoignage au monde, notre témoignage à nous, notre témoignage au monde est vraiment clairement de faire comprendre que Dieu a donné et continue à donner des signes, des signaux aux hommes et aux femmes de ce monde. Que Dieu nous interpelle, nous appelle, qu'il veut entrer en contact avec nous, et que nous n'en sommes pas restés au petit Jésus de la crèche, ni pour lui, ni pour nous. Tout comme le petit Jésus, nous grandissons tous, nous avons grandi physiquement, intellectuellement, spirituellement. Et Jésus lui-même a grandi. Les jours, les mois, les années qui ont suivi la crèche, il a vécu ici-bas. Il a accompli non seulement ce qui était annoncé par les prophètes, mais aussi sa mission parmi les hommes et les femmes qu'il a côtoyés sur la terre, jusqu'à la croix, donc aussi au travers du message de Pâques. Notre témoignage, le témoignage de notre vie est donc d'être des témoins et de rapporter au monde qui nous entoure la raison de la venue de Jésus-Christ et de dire et de redire qui il est pour nous aujourd'hui à Noël 2017. C'est ce qu'il souhaite, le Christ, que le monde sache qui il est vraiment. C'était déjà le propre questionnement de Jésus-Christ lui-même de son vivant sur la terre à l'époque. Savoir comment les hommes le percevaient. Matthieu 16, 13, Jésus était arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Et ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres que tu es Élie, les autres que tu es Jérémie, ou l'un des prophètes. » Et Jésus se tourne vers ses disciples et dit, « Oui, mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Vous, qui dites-vous que je suis? Vous, mes disciples. » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Écoutez bien, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » entre le petit Jésus de la crèche et le Christ mort sur la croix, il y a tout un temps d'enseignement que nous apportent les évangiles. Les récits des témoins de l'époque, les lettres de Paul et des autres apôtres qui sont là pour nous instruire et nous éclairer. Et j'ai été interpellé par ce verset 17 que je viens de vous lire. « Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Et j'ai pensé à ce verset à la fois simple et à la fois dur que l'apôtre Paul dit et confirme aux Corinthiens. Nul ne peut dire Jésus-Christ est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Cette affirmation m'invite et invite chacun à se rendre compte que pour nous, il n'y a qu'un seul choix dans la vie en rapport avec le message de Noël, déclarer que Jésus-Christ est le Seigneur. Le petit Jésus de la crèche est celui qui va devenir notre Seigneur. Il est notre Seigneur. Et notre texte nous place devant notre propre compréhension intime du message et de la venue de Jésus-Christ en nous interpellant. Si l'Esprit de Dieu est en moi, et seulement à cette condition, je peux affirmer et donc prononcer que Jésus est le Seigneur. Je reprends cette phrase parce qu'elle est importante. Si l'Esprit de Dieu est en moi et seulement à cette condition, je peux affirmer personnellement et donc prononcer vers les autres que Jésus est le Seigneur. Mon témoignage est donc lié à ma relation réelle avec Dieu, à la présence de l'Esprit de Dieu en moi. Je reçois donc tout de Dieu, y compris le fait de pouvoir me tourner vers lui et de pouvoir rendre ce témoignage autour de moi. Une remise en question, une responsabilité aussi. L'apôtre Jean donne encore cette affirmation de Jésus lui-même qui s'exprime dans la synagogue où il dit, Jean 6, 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Et continue, « Et je le ressusciterai au dernier jour. » Les disciples avaient du mal à accepter cela et murmurait, mais cette parole est dure, qui peut l'écouter ? Matthieu 6, 60. Et notre texte continue, Jésus connaissait en lui-même ce que les disciples murmuraient à ce sujet. Et il leur dit, cela vous scandalise ? Et notre texte se poursuit, verset 65, Jésus leur ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. Venir à Dieu par le biais du petit Jésus devenu homme, seul chemin. Voilà ce qui nous intéresse au premier chef dans notre vie, notre chemin vers Dieu. Et au final, le témoignage de chrétiens que nous pourrons apporter au monde qui nous entoure. On ne peut en aucun cas faire l'économie de réfléchir à cet enjeu, à cette recherche, pour les autres, parce que c'est notre mission, mais pour nous d'abord, pour moi d'abord. Qui est vraiment Jésus pour moi ? Ou alors, est-ce que je peux me dire à Dieu, témoigner donc, prier à Dieu, et finalement donc le dire aux autres, le proclamer au monde, Jésus-Christ est le Seigneur. C'est ici qu'un choix s'impose en fait à moi, je peux le dire ? L'Esprit de Dieu me permet-il, me laisse-t-il le dire ? Habite-t-il cet esprit suffisamment ou tellement ou parfaitement en moi pour que j'aie cette capacité ? On retrouve la même pensée chez l'apôtre Jean, qui curieusement l'imagine avec son contraire et qui nous dit, 1 Jean 4, verset 2, « Reconnaissez l'Esprit de Dieu à ceci. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu, et son contraire, tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. » Et il continue, « Et cet esprit est celui de l'Antéchrist, dont vous avez entendu dire qu'il vient, et maintenant il est déjà dans ce monde. » Si je ne peux pas confesser, dire simplement, ou si je ne dis pas que Jésus-Christ est le Seigneur, Jean nous dit, c'est que l'Esprit de Dieu n'est pas en moi. Donc que je ne suis pas de Dieu, et que par conséquent je suis contre Dieu, puisqu'il n'y a pas d'autre solution. Soit je le confesse, soit je suis un rebelle, un opposant, et j'appartiens au prince de ce monde, à l'esprit de l'antéchrist. Je ne suis pas du Christ. Je suis anathème, nous dit la Bible, maudit de Dieu. Passage fort et difficile. Difficile à accepter peut-être. Rappelez-vous les paroles de Jésus à ses disciples, cela vous scandalise ? Mais un enseignement combien nécessaire pour nous. Et aussi instructif et plein de force et de certitude pour notre vie et notre mission de témoin. Passage par lequel nous pouvons et nous devons aussi mesurer notre compréhension du message de Noël et donc notre réelle capacité à le partager et à le propager. Jésus-Christ, c'est qui pour moi ? Vraiment. Telle est la réflexion vitale que nous amène à nous, chrétiens, le message de Noël. Il n'y a donc, du point de vue de Dieu, qu'un seul choix de vie qui nous rapporte, qui nous rapproche de lui et nous lie à lui, témoigner que Jésus-Christ est le Seigneur. C'est notre essence, c'est notre but, c'est notre mission sur cette terre. Toute autre réponse ou tout silence est pour Dieu une absence de réponse, quelque chose de juste inaudible à ses yeux, il n'entend, à ses oreilles, pardon, il n'entend pas. Et cela nous place dans l'autre camp, celui de ceux pour qui la vie du petit Jésus se limite à la crèche et à la boîte en carton. Après le choix des cadeaux que je vais faire aux autres, ou plutôt avant, ou même peut-être à la place, chacun mettra l'ordre qu'il veut, Dieu me propose, une fois n'est pas coutume, de penser égoïstement d'abord à moi, pour lui rendre une réponse qui lui soit audible. Ça veut dire qu'il puisse entendre. Pour que cette réponse soit aussi audible dans le monde, pour que le monde puisse l'entendre. Jésus-Christ a fait le choix d'obéir à Dieu. Et moi, quel maître je vais suivre ? Quel Noël je vais vivre ? Alors, plus que jamais, un verset me semble intéressant pour ma lecture de Noël. Un verset qui n'a rien à voir avec Noël. Mais qui est finalement important pour mon choix de vie, mon choix de témoin. Il est curieux, je l'admets, de donner ce verset pour Noël. Mais un verset que Jésus nous rappelle et dans lequel il nous dit qu'il est d'abord venu à Noël pour nous servir. Et qu'il fait ce choix en devenant aussi témoin dans le monde. Ce verset, Matthieu 6, 24, nous dit en quelque sorte de faire notre choix. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Et notre verset finit en disant, vous ne pouvez pas servir Dieu ou Mammon. Mammon représente le monde, l'argent, vous le savez. Questionnement pour nous à Noël et pour notre témoignage pour ce monde. Que Dieu, notre grand Dieu, nous bénisse chacun, nous garde dans ce temps béni de Noël, où nous commémorons sa venue sur la terre, la venue de notre Seigneur, et qu'il nous donne la capacité, la joie de déclarer à Noël que Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. Je vous invite à un petit moment de silence et si quelqu'un veut prier, qu'il le fasse tout à fait librement. Seigneur, parmi toutes ces lumières qui brillent dans cette période de Noël, il y a celle de ton étoile qui nous rappelle que c'est toi qui es venu apporter à tous les hommes et toutes les femmes la possibilité de renouer ce lien avec toi, avec le Créateur. Alors nous voulons te prier pour que nous puissions, en cette période de Noël, être les témoins de cela. Nous réjouir avec nos amis de ce temps de fête, mais prendre l'occasion peut-être de témoigner et de dire que tu es le Seigneur, que tu es notre Seigneur. Alors nous voulons t'accueillir, non pas comme simplement comme ce petit Jésus de la crèche, mais comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et nous voulons témoigner au monde que tu es venu à Noël pour nous réconcilier avec notre Créateur. Nous te prions, Seigneur, que ce Noël soit Noël à ta gloire et à ta gloire seule. Et nous te bénissons pour cela. À toi l'honneur, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
Nous voulons partager encore ce repas. Ce repas institué par ce Jésus dont on vient de parler, juste avant sa mort, ce repas simple dans son essence n'est pas forcément simple dans sa compréhension. Et au fil des siècles, je dirais, il a même été un centre de débat, peut-être même de querelle. Et ce repas a été à une période, et peut-être l'est encore pour certains, devenu peut-être plus un rituel, peut-être même à certaines époques un rituel empreint de superstition. Et lorsque j'ai repris quelques textes, en pensant à ce moment, dans les trois premiers évangiles, ce repas est institué par Jésus, et les textes sont à peu près semblables sur la façon dont il est présenté. Et j'ai été un peu frappé en voyant que dans l'évangile de Jean, puisque lorsqu'on réfléchit à ce texte, on va dans les évangiles, ou alors dans Corinthiens, où Paul le rappelle, où il est présenté. Et en allant dans l'évangile de Jean, on s'aperçoit qu'au moment historique dans lequel Jésus a institué ce repas dans les autres évangiles, dans Jean, il y a plusieurs autres, c'est à peu près le même moment, on sait que c'est au moment où il est avec ses disciples réunis pour la Pâque, il y a plusieurs autres textes très intéressants. Et le premier des textes qui est dans ce moment où Jésus est avec ses disciples dans Jean, c'est d'abord le lavage des pieds. Où Jésus-Christ se présente comme le serviteur, avec tous les symboles qui vont avec. Et puis juste après, dans l'évangile de Jean, Jésus parle de Judas, parle qu'il va être trahi, et Judas s'en va. Et Jésus commence par dire cette chose-là, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est à ce moment-là, au même moment où il instituait la scène. Et puis, un autre petit texte très important derrière. On ne va pas le lire dans son ensemble, mais Jésus dit « C'est moi qui suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. » Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Puis le verset 8, « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. » Puis juste à la suite, quelques versets plus loin, il recommence de nouveau, « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Dans le texte que Paul rappelle, il dit, dans Corinthiens 11, que le Seigneur a rompu le pain, et puis il a dit que ça correspondait à son corps. Et puis ensuite, il a donné la coupe, et il a dit que cette coupe, c'était son sang. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Et j'aime ce texte de Jean en pensant à la scène, en réfléchissant que nous sommes ces sarments greffés sur le cep, parce que je vous rappelle qu'on a été greffés. Et que le sang du Christ est symbolisé par ce jus de raisin, ce vin dont le Seigneur parle, et que c'est cette vie qui circule dans le cep sur lequel nous sommes greffés. Et si nous prenons ce repas ensemble, ce n'est pas pour pratiquer un rite, ce n'est pas même pour rappeler au Seigneur ce qu'il a fait, c'est pour que nous, ici, chrétiens, sarments greffés sur le cep, nous nous souvenions que nous sommes greffés sur ce cep et que ce sang circule et nous relie tous les uns aux autres. Ce cep nous relie tous les uns aux autres. Et lorsque nous prenons ce repas, ce dont nous devons nous souvenir le plus, c'est penser à ces textes que le Seigneur a dit de nous aimer les uns les autres. C'est penser que cette communion, dans l'Église catholique, on parle de communier lorsqu'on prend le repas du Seigneur. Cette communion, c'est de cela dont on se rappelle. Que nous sommes les uns et les autres greffés sur ce cep et que nous sommes les uns et les autres unis par ce cep, que nous nous aimons les uns et les autres. Et lorsque nous prenons ce repas, oui, nous nous rappelons de ce que le Seigneur a fait pour nous, mais nous nous rappelons surtout de ce qu'il a fait pour tous nos frères et sœurs et que nous sommes liés les uns aux autres. Et ce matin, j'avais à cœur qu'on, au moment où on prend ce repas, où on le partage, on se rappelle de ça. Le sang du Christ a coulé, c'est vrai, pour que individuellement nous soyons greffés sur ce cep. Mais nous ne devons jamais oublier, nous ne devons jamais oublier que nous sommes tous les uns et les autres, ceux qui l'ont reçu comme tel, greffés ensemble sur ce cep. Et j'aimerais que nous puissions nous rappeler dans ces moments où on va partager ce repas, que vraiment on est dans la communion, qu'on est dans ce partage de ce que le Seigneur a donné. Il a rompu ce pain comme son corps, comme nous avons été quelque part rompus à notre ancienne vie et nous avons été regreffés sur ce cep pour être alimentés par ce sang que le Seigneur a fait couler pour nous. Pendant qu'on ramasse les gobelets, je vais juste encore laisser ces quelques versets dans Éphésiens. Ce verset d'ailleurs. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen.
Bonjour. Pour commencer nos annonces, j'invite Anne-Marie à venir nous faire un petit retour, nous partager ce qui s'est vécu hier après-midi au goûter de Noël des aînés.
En fait, hier, c'était une journée chargée puisqu'il y avait le club d'enfants le matin et c'était aussi beaucoup de joie, n'est-ce pas? Et donc, l'après-midi, on a tout installé ici et je crois que les 12 personnes âgées qui étaient par là se sont réjouies. On a pu leur montrer, avec le groupe de jeunes, à quel point ils étaient précieux pour notre assemblée, à quel point c'était aussi la preuve vivante de la fidélité de Dieu, leur présence. Et j'aimerais tout particulièrement remercier le groupe de jeunes pour leur engagement, pour ils ont même nettoyé la salle et remis les chaises. Hein. On n'a pas eu besoin. Ah, ça. Alors, j'aimerais vraiment que le Seigneur les bénisse, tout particulièrement ces jeunes qui sont dans l'obéissance et dans un esprit de service. Que le Seigneur vraiment vous bénisse chacun.
Je vous laisse découvrir les annonces à l'écran. Une annonce qui n'est pas indiquée, c'est que samedi prochain, le matin, on va faire quelques travaux ici pour avancer. Et puis l'après-midi, on va en principe déplacer le décor. On a trouvé un endroit pour stocker le décor. Comme ça, on va pouvoir le réutiliser. Alors, j'aurais besoin de 4 volontaires pour donner le coup de main pour déplacer le décor. Alors voilà, merci de venir me le dire après le culte. Qui c'est qui peut donner ce coup de main? On verra en fonction des personnes qui seront là, en fonction des possibilités aussi, oui. Pensez à vous inscrire. Donc, dimanche prochain, ce sera un culte de Noël. Et puis, le 31, il y a aussi un culte. Et puis là, on chamboule un petit peu le programme, on vous en avait déjà parlé. On fera le culte en fin d'après-midi et on enchaînera avec la veillée de Noël. Par contre, la veillée du 31, la veillée du Nouvel An. Merci. Par contre, c'est important de s'inscrire pour qu'on sache un petit peu combien il y aura de personnes. Donc, il y a une feuille au fond de la salle. C'est génial parce que la feuille était déjà pratiquement pleine. Donc, on a rajouté une deuxième dessous. Donc, c'est chouette. Il y aura du monde. Mais pensez donc bien à vous inscrire. Un petit peu plus en avant, on a vu que hier il y avait le club d'enfants. Eh bien, dans 4 semaines, il y aura un culte découverte. Donc, le 14 janvier. Et c'est Matt Marvan qui viendra donner le message. On peut déjà y penser parce que ça va passer vite avec les fêtes, la reprise en début d'année, etc. Voilà, si vous avez des amis ou des connaissances à inviter pour le 14 janvier, c'est la bonne date. Je ne sais pas si c'est encore le dépôt de Noël, probablement que oui. Je vous rappelle aussi la vente des calendriers. La fin de l'année est bientôt là. Pensons aussi à ceux qui souffrent, ceux qui ont des soucis de santé, ceux qui doivent passer par l'hôpital. On veut penser tout d'abord à Didier. On vous avait dit, donc Didier sera opéré mardi pour le cancer de la peau qu'il a sur le pectoral. Par contre, cette semaine, Didier a eu une infection pulmonaire. Il a aussi dû avoir un dernier examen chez un angiologue suite à l'état de ses veines, qui n'est pas très bon. Donc, il a dû aller jusqu'à Oyonnax. Alors, Didier rentre mardi matin à l'hôpital, à Lyon-Bérard, à Lyon. Il rentre pour 10 heures. Et puis, il sera opéré à midi. Et j'invite Pierre et Raymond, et Pierrick aussi. Je ne sais pas s'il est là, Pierrick, peut-être pas. À venir ici, puis on va prier pour Didier.
Oui, notre Dieu, c'est vrai que voilà, tu viens encore nous rappeler que ouais, ce n'est pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais c'est ceux qui sont dans la maladie aussi, Seigneur. Et tu es venu pour ça, à Noël aussi. Tu es venu pour nous apporter cette espérance, cet espoir, Seigneur. Et même, nous venons nous rappeler ces souffrances. Tes souffrances, c'est par tes meurtrissures aussi que nous sommes guéris, et nous voulons croire aussi que tu guéris aussi de nos maladies, tu guéris aussi de nos douleurs, Seigneur. Et vraiment là, on veut t'apporter tous ensemble, unis par ce lien, par ce sang, par cet amour qui nous rassemble là. C'est toi, Seigneur, qui nous unis, et nous sommes d'autant plus fermes dans notre foi, convaincus que ouais, tu veux encore intervenir miraculeusement dans la vie, dans la santé vraiment de Didier, Seigneur. Et on te prie là, en ces temps, que tu le protèges, tu le gardes. Tu vois, c'est vrai qu'il y a plein de virus, plein de bactéries. Et on veut, comme tu le mettes sous une cloche pour le protéger de toutes ces parasites, toutes ces attaques, Seigneur. Oui, nous savons que tout cela fait partie de notre vie, fait partie de notre monde. La maladie aussi, Seigneur, la mort aussi. Mais nous croyons ici que dans le cadre de ton Église, dans le cadre de ta vie de ressuscité, tu veux aussi apporter la guérison et la santé, comme tu nous l'as déjà montré à plein d'égards et plein de fois vis-à-vis de Didier, Seigneur. Vraiment, on te prie pour ces temps, pour ces traitements, pour tout cela. Et tu vois comme tu as été aussi, tu nous as fait grâce, et maintenant Jade va beaucoup mieux, Seigneur, elle pète la forme. Et nous te remercions parce que nous avons pu aussi intercéder tous les uns les autres pour elle, et tu as été fidèle. Voilà, sois loué vraiment, c'est notre Dieu, parce que tu es ce grand Dieu, tu es celui qui veut nous faire du bien aussi dans les petits détails et gros détails de nos vies. Sois loué encore, Père, au nom du Seigneur Jésus. Amen.
Annelise est toujours hospitalisée à l'hôpital de Loire, mais en principe plus pour très très longtemps. En principe, demain, elle va déménager, elle ira à Collonges-Bellerive, le CESCO. Elle souffre en effet encore beaucoup, notamment lors du changement des pansements, mais aussi entre deux, il y a des phases de douleur importantes comme ça. Et le CESCO est mieux équipé pour lutter contre la douleur. Donc pensez toujours à la visiter. Si toutefois le déménagement ne se faisait pas demain, je mettrai un message sur le site. Alors, ça n'empêche pas qu'il faut toujours la visiter, c'est toujours important. Elle apprécie toujours autant et elle a vraiment besoin de nos visites. J'ai oublié de le dire tout à l'heure au niveau du programme, mais le premier culte du mois de février. On va vous inviter à participer à un culte en commun sur Genève, à Palexpo. Donc c'est déjà important de savoir qu'il n'y aura pas de culte ici le 1er février. Le 4 février, voilà, le premier dimanche de février. Est-ce que quelque chose aurait été oublié dans les annonces? Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous lever. Je vous partage encore quelques versets dans Philippiens 4, à la fin du chapitre. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun. Amen. Bon dimanche, bonne semaine.